Radio Star.
Morning Edition from NPR News.
Un santito de house.
Radio Rosana Piperino.
Lo que se reproduce en esto en la radio.
France Inter, le 18-20.
Voici un jour dans le monde jusqu'à 19h.
C'est la mafia. Et encore, c'est juste ce qu'on voit en surface.
Voilà, nous sommes à Odessa, en Ukraine. Deuxième tour de l'élection présidentielle dimanche prochain en Ukraine. Les sondages annoncent une large victoire du comédien Volodymyr Zelensky, novice total en politique, loin devant le candidat sortant Petro Porochenko. Au cœur de la campagne, la lutte contre la corruption, ce sera l'escale reportage à Odessa avec Claude Bruyot. Au programme encore Amélie Perrier, sous les radars de l'actualité, en Russie, en Allemagne et en Argentine. Le cinéma en VO comme tous les mercredis avec El Reino de Rodrigo Sorogoyen. On reparlera de corruption, mensonges, manipulation, un élu espagnol et sa stratégie pour échapper à la justice. C'est le scénario de ce film El Reino. Le monde à l'envers, Jean-Marc Four. L'élection présidentielle en Indonésie, le plus grand pays musulman dans le monde. L'Indonésie démontre qu'islam et démocratie sont compatibles. Tout de suite, le chaos en Libye.
Pierre Veil. Un jour dans le monde.
Il y a 12 jours, l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar, qui domine l'est de la Libye, a lancé une offensive militaire pour s'emparer de la capitale de la Libye, Tripoli, où siège le GNA, un gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj, reconnu par la communauté internationale. Les combats ont fait en 2 semaines au moins 189 morts. La nuit dernière, plusieurs roquettes ont touché le centre de Tripoli. Patrick Hamzadeh, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien diplomate français à Tripoli, aujourd'hui chercheur, spécialiste de la Libye. Vous avez publié Au cœur de la Libye de Kadhafi, c'était en 2011 chez Jean-Claude Lattès, et vous êtes un contributeur régulier au site Orient 21. Est-ce qu'on assiste aux signes avant-coureurs d'une guerre civile en Libye avec ces deux pouvoirs qui se disputent le contrôle du pays ?
Oui, écoutez, je pense que la guerre civile, enfin en tout cas une, ce qu'on peut appeler la troisième guerre civile de Libye, hein, après celle de 2011, une autre en 2014 où déjà on avait un certain général Haftar aux commandes, et cette nouvelle explosion de violence qui a commencé le 4 avril. Il se trouve que moi j'étais à Tripoli à ce moment-là, donc on n'a pas ressenti vraiment de signes avant-coureurs. Alors qu'est-ce qui est en jeu en fait en ce moment? On voit bien qu'il y avait un processus politique qui a été amorcé depuis à peu près un an par l'envoyé spécial des Nations Unies, Hassan Salamé, qui comportait une conférence nationale, qui prévoyait une conférence nationale qui devait se tenir le 14, 15 et 16 avril en Libye. Donc vous voyez, c'était juste 10 jours après le début de l'offensive. Et donc cette conférence s'appuyait sur une phase de consultation populaire. C'est quelque chose qui est inédit dans l'histoire des Nations Unies, où en fait on a été écouté les Libyens. C'est un petit peu ce qui s'est fait aussi après, d'ailleurs en France, avec le grand débat. Hein. Et on a écouté les Libyens dans leur village, dans leur ville, dans leur tribu, dans les universités, dans différents centres. Moi, il se trouve que j'ai participé à ce travail.
Et qu'est-ce qu'ils disent, les Libyens?
Et ce qui ressort de ces consultations populaires, ça a donné lieu à un rapport qui a été transmis au Conseil de sécurité en novembre, qui dit que les Libyens veulent un État démocratique, ils veulent une Libye unie. Ils veulent une alternance du pouvoir avec des élections, et ils veulent un pouvoir civil et une armée nationale sous les ordres d'un pouvoir civil. Donc ça paraît des demandes qui sont assez simples. Hein. On n'est pas dans le chaos comme on l'entend parfois. Hein. C'est un terme que je rejette un peu, parce que je pense qu'il y a une rationalité des acteurs derrière tout ça. Et donc finalement, ce qui s'oppose en ce moment en Libye, il faut bien l'avoir à l'esprit, c'est d'un côté un modèle politique qui a été le modèle instauré depuis maintenant 4 ans à l'est de la Libye, qui est un modèle militariste, avec un culte de la personnalité, enfin des choses qu'on connaît bien, hein, qu'on voit ailleurs dans le monde arabe.
Ça, c'est le maréchal Haftar.
Voilà, c'est en l'occurrence c'est le cas. Hein, ouais. Donc c'est le maréchal Haftar et son armée à l'est. Donc on a eu les maires élus qui ont été relevés, remplacés par des gouverneurs militaires. Enfin voilà, toute une administration, je dirais, pyramidale, avec en haut un chef et le culte du personnalité, de la personnalité qui va avec. Et à l'ouest, ça tient aussi à la sociologie de l'ouest libyen, qui est fait de villes, de centres commerciaux, de tribus, de villages côtiers en relation avec l'extérieur. Donc on a une société beaucoup extrêmement diverse, et donc on avait une recomposition politique en cours. Alors bien sûr, c'est pas un modèle parfait, il y avait des négociations, des compromis, hein, fait de tous les côtés, et puis parfois des affrontements, parce que bien sûr il y a ce problème de la réintégration des groupes armés, hein, qui était en cours, et là aussi les Libyens c'était bien sûr, ils avaient pris position là-dessus en disant que les milices, enfin ce qu'on appelle les milices, les groupes armés, avaient vocation à intégrer des forces armées.
Justement, Patrick Hamzadeh, est-ce que la Libye est aujourd'hui un pays qui est livré aux chefs de milices?
Je crois que c'est une vision caricaturale, et justement c'est la vision, c'est le narratif, je dirais, c'est la grande histoire que porte le maréchal Haftar, puisque la justification de son attaque de la capitale, ça a été on va nettoyer la capitale des milices et des islamistes. Hein. Alors cette image de la capitale comme étant une espèce d'une zone de non-droit total et d'insécurité. Bon, moi, je peux témoigner du contraire, puisque j'y ai passé beaucoup de temps. Certes, il y avait des groupes armés qui commençaient leur intégration au ministère de la Défense et au ministère de l'Intérieur. Hein, donc, c'est un processus long, bien sûr. On est dans un processus de construction étatique, mais ça se faisait par la voie politique, par la négociation. Et ça devait aboutir, justement, à cette conférence nationale où toutes les parties du conflit, toutes les composantes de la société libyenne, que ce soit même les gens qui ont soutenu l'ancien régime, les différentes composantes sociales, ethniques, etc., devaient être représentées. Il y avait plus de 180 personnes invitées à cette conférence. Et donc, c'était une sorte de conférence qui devait aboutir à une charte nationale et à une feuille de route vers des élections.
Mais est-ce que le maréchal Haftar a participé à ces réunions? Est-ce qu'il a dit dans un premier temps qu'il était d'accord?
Alors c'est à toute ambiguïté. Il a soutenu.
Il veut jouer la force maintenant.
Maintenant, en fait, si vous voulez, ce qu'on voit actuellement, on peut pas dire qu'on soutient l'option politique et en même temps déclarer la guerre. Donc on voit bien que il a accepté, puisqu'il y a eu des réunions consultatives qui se sont tenues dans les zones sous son contrôle. Donc je dirais qu'il n'a pas interdit le processus consultatif. Le rapport lui a été transmis, il a été informé. Le Hassan Salamé, bien sûr, l'a informé en temps réel de ce travail qui a été validé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc on peut imaginer qu'il a, par cette offensive militaire, décidé de jouer une autre carte, hein, qui est la carte militaire. Quelque part, ça a été dit hier par Hassan Salamé, bon, c'est un coup de force, hein, avec l'espoir peut-être que ce coup de force se passerait assez rapidement et n'installerait pas le pays dans une guerre durable. Malheureusement, on voit que le scénario et les guerres, c'est toujours la même chose. Hein. On pense que ça va durer 2 jours et c'est toujours plus long que prévu.
Et déjà 189 morts. Qui contrôle les champs pétroliers en Libye?
Alors, les champs pétroliers, ils sont sous contrôle majoritairement des troupes du général Haftar. Hein. Mais je dirais que tout ça, ça veut pas dire grand-chose, puisqu'il y a des lois internationales qui font que le pétrole libyen est exporté, certes, peut-être sous contrôle d'une partie, mais les revenus du pétrole sont versés à la Banque centrale. Et la Banque centrale est sous contrôle et sous l'autorité. D'abord, elle est indépendante, mais elle est à Tripoli, la Banque centrale. Donc, si vous voulez, même si il contrôle militairement ses champs, il peut à la limite empêcher la production de pétrole. Mais ça, c'est tous les Libyens qui en seront les victimes. Mais l'argent est versé sur la Banque centrale, et la Banque centrale, jusqu'à maintenant, payait les fonctionnaires, y compris les fonctionnaires de l'Est.
Mmh. Est-ce que la Libye est un repère pour djihadistes aujourd'hui?
À partir du moment où on n'a pas d'État, hein, on voit bien que même en Europe, où on a des services de renseignement, etc., on voit bien qu'il y a eu des attentats, il y a eu des groupes, donc tout est possible. Bien sûr qu'on a on peut avoir des groupes qui s'implantent, et à la faveur des combats à l'heure actuelle, bien sûr que ça peut donner des idées et en tout cas une marge de manœuvre à certains groupes pour pouvoir agir en profitant effectivement de la situation actuelle. Mais je dirais que jusqu'à présent, il y a eu des poches de Daesh en Libye et elles ont été combattues à la fois par l'Ouest. Et à la fois par les troupes d'Eftar à l'est.
Mais alors en superficie, qui a le plus de contrôle sur le territoire libyen actuellement, le maréchal Haftar ou Farage et ce gouvernement national à Tripoli?
Alors, vous voyez, j'ai toujours un problème avec les cartes, parce qu'on voit des belles cartes dans la presse avec des zones sous contrôle qui sont des zones
immense,
désertiques.
Hein, la Libye.
Donc ça veut pas dire grand-chose. Il faut savoir que les deux tiers de la population libyenne se trouvent à l'ouest du pays, donc dans la capitale Tripoli, ouais. Et puis les villes qui sont alliées et qui sont avec Tripoli. Donc je dirais que en plus le contrôle, c'est toute la problématique, c'est qu'il y a des zones qui sont extrêmement fragmentées. Cette offensive a montré, y compris à l'ouest, qu'il y avait des communautés qui se sont divisées. Ça s'était même pas fait en 2011. Donc on a vraiment les risques d'une fragmentation. On a plusieurs risques aujourd'hui en Libye, pour moi, qui sont extrêmement dangereux. C'est la fragmentation accrue à l'ouest, avec des villes qui vont soutenir Haftar et d'autres qui ne vont pas le soutenir. On a les ingérences et les interventions extérieures directes. Ça, c'est un risque majeur. Et on a, in fine, le risque que s'installe un discours sécessionniste, c'est-à-dire que cette guerre serait une guerre de l'Est contre l'Ouest. Ce qui n'est pas le cas, encore une fois. Je pensais surtout, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais si, effectivement, le conflit devait vraiment durer et s'aggraver, on pourrait avoir un retour de cette rhétorique la Tripolitaine contre la Cyrénaïque, etc.
Vous avez parlé des influences extérieures. Comment ça fonctionne? Qui soutient qui?
Pour faire simple, ouais. on sait très bien que le maréchal Haftar a été au Caire ce week-end, donc on voit bien que il a des soutiens avec son grand voisin de l'Est.
Certains disent qu'il pourrait être une sorte de Sisi, maréchal Sisi libyen.
C'est un modèle. Ouais. Quand je parlais de modèle militaro,
dictature implacable,
c'est un peu ça. Et avec une alliance en plus avec les salafistes. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, il y a des katibas, il y a des groupes de groupes armés salafistes qui combattent avec Haftar. Voilà. Et puis on a d'autres pays du Golfe, comme les Émirats, qui sont déjà intervenus en 2014 avec des bombardements directs. À l'époque, d'ailleurs, c'était avec des Mirage de 2000 qui ont été vendus par la France il y a quelques années. Donc on a un risque majeur d'intervention militaire directe. Et de l'autre côté, bien sûr, le gouvernement de Tripoli cherche des soutiens. Ils étaient en Italie ce week-end. Et bien sûr, le risque, c'est qu'à partir du moment où une partie extérieure soutient une autre, la partie adverse va aller chercher aussi des soutiens. Et donc, on est vraiment ensuite dans un risque d'internationalisation du conflit. Et ce serait vraiment dramatique.
Il y a eu des manifestations très hostiles à la France, à Tripoli, donc dans le secteur contrôlé par Farage, où on dit, voilà, la France soutient le maréchal Haftar. Quelle est la position de la France? On dit qu'elle était un peu ambiguë.
Alors oui, d'abord, la manifestation, c'est intéressant parce qu'il y a eu une manifestation effectivement vendredi sur la grande place de Tripoli avec des milliers et des milliers de personnes. C'est les femmes, c'est des groupes de femmes qui ont été à l'initiative de... Donc c'est vraiment un mouvement
spontané. Et certains manifestants portaient des gilets jaunes.
Oui, il y a eu effectivement des photos de gilets jaunes parce que bien sûr, la France est perçue à l'ouest comme soutenant Haftar, à tort ou à raison. On l'a soutenu effectivement militairement pendant assez longtemps. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais en tout cas, on est perçu comme pro Haftar à l'ouest. Et donc oui, il y a eu bien sûr des signes de mécontentement et ça a été des slogans qui ont été lancés dans la manifestation. C'était pas que ça, c'était pas une manifestation anti-française, c'était une manifestation contre la guerre. Voilà.
Si ce conflit dure, prend de l'ampleur, est-ce que ça peut provoquer une vague d'immigration vers l'Europe? Selon Farage, donc l'homme qui dirige ce gouvernement d'union nationale à Tripoli, une guerre en Libye, c'est ce qu'il dit, pousserait plus de 800 000 migrants en Europe. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration?
Les chiffres sont c'est toujours difficile de d'évaluer ça avec des chiffres, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a des populations, donc des gens qui sont dans des camps de réfugiés, des populations en transit ou des populations souvent qui viennent d'Afrique subsaharienne, qui sont bloquées par la guerre. hein, donc qui sont dans une position encore plus difficile qu'elles ne l'étaient il y a quelques semaines, avec des autorités qui ont d'autres priorités sûrement que de les nourrir ou que de s'en occuper, puisqu'ils sont dans la dans une survie, je dirais, contre ce qui se passe en ce moment. Et donc bien sûr, ces gens-là vont avoir encore plus de j'irais de motivation pour quitter le pays. Maintenant, oui, c'est un risque effectivement non négligeable, mais je dirais que le premier risque, il est vraiment pas une fragmentation totale de la société et une perspective d'un pays instable pour des années. Alors là aussi, le pari qui peut être fait par certains, hein, et peut-être par certains en France aussi, hein, que Sisi, enfin que le maréchal Haftar pourrait être une carte pour stabiliser la Libye. Hein, je pense que c'est une grave erreur d'analyse. Je pense que si tant est qu'il puisse rentrer dans Tripoli et avoir un semblant de victoire militaire tactique, il ne peut pas stabiliser durablement la Libye. Parce que, pour ce qu'on a dit au début, une majorité de Libyens rejette ce modèle. Il y a 20 millions d'armes en circulation. Vous avez des zones montagneuses et les gens se battront. Hein, et donc on peut imaginer effectivement une résistance. Et il lui a fallu 4 ans pour contrôler Benghazi. Et encore, il ne la contrôle pas totalement, alors qu'il était sur son terrain. Donc vous imaginez en Tripolitaine, avec une ville qui lui est pour l'instant hostile.
Patrick Hamzadeh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France Inter ce soir pour nous expliquer cette situation très confuse et dangereuse en Libye. Merci beaucoup.
Merci.
Le 18-20, Pierre Veil sur France Inter.
Et à suivre dans Un jour dans le monde, l'escale reportage en Ukraine. Dimanche prochain, deuxième tour de l'élection présidentielle. Les sondages annoncent la victoire d'un humoriste, d'un ancien comédien. Il est loin devant le sortant Porochenko, accusé d'avoir été bien timide dans la lutte contre la corruption, une pratique largement répandue en Ukraine. Eh bien, on aura un exemple à Odessa avec le reportage de Claude Bruyot. Amélie Perrier, sous les radars de l'actualité. Puis le mercredi, c'est le cinéma en VO, le cinéma du monde. Ce soir avec nous, Corinne Pellissier. Bonsoir Corinne.
Bonsoir.
Et vous nous proposez un film France Inter, un film qui raconte un politicien corrompu, c'est El Reino de Rodrigo Sorogoyen.
Voilà, on parle de corruption, la politique espagnole au filtre du nouveau maître du thriller.
À tout à l'heure Corinne, 18h55, Jean-Marc Four. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Le monde à l'envers, l'Indonésie a élu aujourd'hui son président, il s'appelle Joko Widodo, c'est le président sortant.
Jokowi, généralement, en Indonésie.
Jokowi, très bien.
Président. C'est pas un joueur de tennis.
Voilà. L'Indonésie, le plus grand pays musulman du monde. C'est et ça montre que l'islam est compatible avec la démocratie.
Ce président indonésien modéré démontre effectivement que démocratie et islam peuvent être compatibles.
À tout à l'heure, vers 18h55, Jean-Marc Four. Kofi, c'est une jeune artiste jamaïcaine. Elle a 19 ans. Il y a 2 ans, elle avait écrit une chanson acoustique en hommage à Usain Bolt. Et Bolt a trouvé ce morceau formidable. Il l'a publié sur ses réseaux sociaux. Célébrité immédiate pour Kofi sur son dernier album qui a pour titre Rapture, il y a Burning.
On the street, tank top in the heat, jeans, pants and Crocs, no socks left on my feet, knapsack with me a beat, well pack up on the need, stay woke, no sleep, me no little book keep, money pa me mind, but me never have a kind, now nah, cause me just a hustle for the pretty dollar sign, I never no fun time, life rough sometime, but me know me and me mommy, I fi see the sunshine, that's why me,
come with the fire, the city burning, don't me just a turn it up fire and keep it burning. Give him the fire, I'll make it burn.
Boy become a pizza. Mommy say be doctor. Granny say be preacher. Muffy be a rasta. Daddy say be neater. Peter never like that. So him take the streets. Everybody born with the talent to fi feature. Blessings in abundance, so we fi cherish each. Never be ungrateful. Life is such a teacher. Coffee pan upset a track. See me bring the heat, yeah.
Come with the fire, the city burning. Don't just a turn it up higher and keep it burning. It a burn like a tire, me have a burning sun. And if my try for retire, me leave them yearning. None can hold my flame. No, he can't quench, can't cool, can't tame. Since the devil, I like it himself, he turn it down. So me just give him the fire and make it burn.
He run up and down. Have them a run up and down. Yeah, coffee with the dance sound. Anytime he come round, a madness bunny compound. Man a ton, fool a ton, clown.
But judge a cover my journey, I beg you guide it. And any trouble me see, help me avoid it. Me no say anything me need, God will provide it. Anyway, still what a time, lead me beside it. Come with the fire, the city burning. Don't me just a turn it up higher and keep it burning. It a burn like a tire, me have a burning sun. And if me try for retire, me leave them yearning. None can hold my flame. No, he can't quench, can't cool, can't tame. Since the devil, I like it himself, he turn it down. So me just give him the fire, I'll make it burning.
Voilà, Kofi, elle défend l'héritage de Bob Marley, c'est-à-dire l'éternel reggae. C'était Burning. Notez que vous retrouverez Fabienne Synthèse demain soir de 18h à 20h, émission spéciale Tour d'Europe avant les élections européennes. Demain soir, Fabienne sera à Rome. L'Italie et son improbable coalition gouvernementale, une Italie devenue très eurosceptique. Et comme à chaque fois, le 18-20 ira aussi faire un tour chez les voisins, en Espagne, avec ce mouvement Vox qui monte, la Grèce et ses services publics en très mauvais état. Bien sûr, des invités, des reportages. Fabienne Synthèse à Rome, en direct demain soir de 18h à 20h.
Hello. France Inter.
Good evening and welcome.
Yeres Machio Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervencia extra.
Sous les radars de l'actualité avec Amélie Perrier. Amélie, la Russie réécrit son histoire.
C'est un sondage du Levada Center, un bureau indépendant, rapporté par le Moscow Times. Étude réalisée auprès de 1600 personnes au mois de mars, qui nous dit que 70% des Russes approuvent le rôle joué par Joseph Staline dans l'histoire de la Russie. Alors voilà ici le discours de Staline, hein. 7 novembre 41, en pleine Seconde Guerre mondiale. Il salue toutes les forces vives, les forces armées, les ouvriers. Ici, c'est la figure du père de la patrie, du chef de l'Empire soviétique, bientôt victorieux de l'horreur nazie. C'est cette image qui a été réhabilitée, particulièrement ces dernières années. La cote de popularité de Staline en 2016 était de 54%. Elle passe donc aujourd'hui à 70% selon le même organisme. Il y a là le rôle de l'actuel président Vladimir Poutine. Il a ravivé l'hymne soviétique, les défilés militaires. Mais ce regain de sympathie pour Staline, c'est aussi en réaction à l'actuel dirigeant. Un sociologue russe affirme que Staline commence à être perçu comme un symbole de justice, une alternative au gouvernement actuel, cruel et indifférent face au sort de la population, dit-il. Une image purement mythologique, précise-t-il, très loin des grandes purges, des goulags, des déportations des minorités par centaines de milliers. Mais aujourd'hui, à propos des crimes de Staline, eh bien de moins en moins de personnes, moins en moins de Russes affirment qu'ils étaient injustifiés.
Amélie, l'Allemagne a aussi une lecture particulière et délicate de son passé.
Et l'objet du débat, deux tableaux du peintre Émile Nolde, maître expressionniste. Ils étaient accrochés, ces tableaux, dans le bureau d'Angela Merkel à Berlin, mais la chancelière a décidé de les enlever, car une exposition vient d'ouvrir dans la capitale allemande. Elle bat en brèche la légende officielle de Nolde. Après avoir épluché 30 000 documents, des historiens confirment que le peintre était un nazi enthousiaste. Il applaudit l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933. Il est antisémite, profondément. Il dénonce certains de ses collègues juifs, d'ailleurs. Il avait même mis au point un plan pour désenjuiver, il le dit comme ça, l'Allemagne qu'il comptait soumettre à Hitler. Sauf que les nazis ont classé ses œuvres parmi les dégénérés, ces artistes qui ne suivaient pas l'esthétique nazie. Nolde en est profondément blessé, mais après la guerre, il va se servir de ce déclassement pour se poser en victime des nazis et se retirer à la campagne. Alors aujourd'hui, la vérité historique est rétablie, mais le débat fait rage entre une Angela Merkel qui décroche ses toiles et par exemple la ministre de la Culture du Schleswig scientifique Hochstein. Elle affiche dans son bureau une reproduction d'un tableau de Knoll 2. Ou encore l'artiste allemand Daniel Richter. Voilà ce qu'il disait à propos de Knoll 2 il y a déjà 4 ans.
Franchement,
je pense que c'est le moralisme, dit-il, et la bigoterie d'une génération qui semble penser que le monde est un terrain de jeu moral. Je pense que tout le monde devrait savoir qu'il a été nazi, mais ça ne fait pas de ses toiles des œuvres pires ou meilleures. Débat épidermique outre-Rhin. Certains demandent à Angela Merkel si elle va, par exemple, continuer d'assister au festival annuel de Bayreuth consacré à Wagner. Antisémite notoire.
La bigoterie évoquée à l'instant par l'artiste Daniel Richter est peut-être la même qui a privé ces femmes d'école en Argentine.
Des adolescentes, nées garçons, mais transsexuelles. Elles se font virer de l'école. 10, 20, 30 ans plus tard, elles reprennent le chemin du lycée, une école pionnière à Buenos Aires, la capitale.
Senti curiosidad cuando vi la foto de Sarmiento.
La verdad es buenísimo.
Decidí hacer mi secundario acá en esta escuela.
Alors voilà leur témoignage recueilli sur le site de l'école, une bachillerato popular, établissement pour ceux qui n'ont pas fini leur cursus secondaire qui porte le nom là d'une femme transgenre assassinée, Mocha Celis. Au programme de l'histoire, des maths, de la biologie mais aussi des études de genre et une éducation à la santé. Les profs sont trans ou pas et les cours ont lieu l'après-midi. C'est compatible avec les horaires des élèves, beaucoup sont des travailleuses du sexe. Mais d'autres, nous dit le reportage du Guardian, trouveront une fois diplômées un emploi dans la fonction publique. Car la province de Buenos Aires a instauré des quotas d'agents trans dans la province. Si cette minorité est encore victime de violences et de discrimination, l'Argentine a quand même fait de gros progrès ces dernières années pour leur garantir plus de droits.
Sous les radars de l'actualité, Amélie Perrier. Merci Amélie.
France Inter,
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin,
le 18-20,
le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth, France Inter.
Et voici Escale Reportage, l'élection présidentielle en Ukraine. Deuxième tour, dimanche prochain, si l'on en croit les sondages. Les jeux semblent faits. Le président sortant, Petro Poroshenko, est largement battu dans les intentions de vote par le comédien Volodymyr Zelensky. Ce novice en politique a largement utilisé durant sa campagne la lutte contre la corruption. Malgré la création de nouvelles instances judiciaires, Petro Poroshenko n'a pas réussi à convaincre de sa volonté réelle de juguler ce fléau. Cette puissance explique pour une grande part le vote protestataire. C'est le cas notamment à Odessa, 1 million d'habitants, grand port de la mer Noire, qui a plébiscité Zelensky au premier tour. Reportage de Claude Bruyot à Odessa.
Les containers s'amoncellent au pied des grandes grues de déchargement et le va-et-vient des remorqueurs rythme la journée des dockers. Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie il y a 5 ans, l'activité du port d'Odessa n'a cessé d'augmenter et avec elle, les risques de trafic en tout genre. Pourtant, c'est en ville, dans un marché couvert de quartiers, que Sergueï, 53 ans, a perdu sa boutique de pièces détachées. Un changement soudain de propriétaire des lieux, le refus de payer un loyer multiplié par 10 d'un seul coup, avec l'accord du pouvoir local, et depuis Sergueï va de procès en procès. Mais surtout, quand il s'agit de corruption, il ne croit plus dans les promesses des politiques.
Dans ma situation, j'avais fait confiance au maire d'Odessa qui nous disait de signer le contrat du marché avec le nouveau propriétaire, que tout irait bien. Mais il n'a pas tenu ses promesses. C'est la même chose avec Poroshenko. On a vu les pillages et la contrebande d'armes. Zelensky, je ne sais pas. Il n'a toujours rien montré. En tous les cas, c'est quelque chose de nouveau et pas ce qu'on voit maintenant.
Parmi les premiers à dénoncer la corruption à Odessa, Artyom, jeune avocat activiste de 28 ans, s'efforce de défendre Sergueï. Il évoque, lui, carrément, un système mafieux.
C'est la mafia. Et encore, c'est juste ce qu'on voit en surface. Elle a davantage de moyens armés ici que le pouvoir central. Si on parle d'autres régions en Ukraine, il y a un déséquilibre. Ailleurs, ils essaient juste de contourner la loi, ou alors ils s'en accommodent. À Odessa, depuis les 2 dernières années, le pouvoir local l'ignore carrément, avec notamment la vente frauduleuse d'une usine de la région. Ils ne respectent plus les lois de l'Ukraine. Avec eux, ça fonctionne comme ça.
Le pouvoir local de Kiev n'est pourtant pas resté inactif en installant partout dans les grandes villes d'Ukraine, comme à Odessa, des unités anticorruption.
Bonjour. Bienvenue au Bureau national anticorruption d'Ukraine.
Au troisième étage d'un immeuble du centre-ville depuis bientôt 2 ans, les enquêteurs de NABU, comme on appelle le Bureau national anticorruption d'Ukraine, se multiplient avec l'aide des activistes locaux pour démanteler les réseaux. Volodymyr Déhouline, leur responsable, avoue un manque de moyens humains et juridiques, mais des résultats commencent pourtant à apparaître.
Les résultats de nos rencontres avec les activistes débouchent parfois sur des procès. Nous avons des exemples concrets, même dans notre région, à partir d'informations que les activistes nous ont fournies, qui se traduisent par des procédures judiciaires prises en charge par nos services. Des poursuites criminelles s'en sont même suivies. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, le pouvoir local se retrouve sur le banc des accusés dans une affaire d'argent public qui appartient à la collectivité d'Odessa.
Davantage que les menaces ou la crainte de représailles, Volodymyr Déhouline parle surtout de la complicité de certains juges comme d'un obstacle encore majeur à la lutte contre la corruption à Odessa et dans tout le pays. Mais à l'heure du choix entre Petro Poroshenko et Volodymyr Zelensky, il reste fidèle à son devoir de réserve et assure qu'il continuera le combat coûte que coûte. Car au-delà d'un président critiqué pour avoir insuffisamment lutté contre la corruption, il faut aussi s'arrêter sur la stratégie de Volodymyr Zelensky, stratégie gagnante jusqu'ici, mais surtout en trompe-l'œil, pour Tatiana Gorkova, journaliste indépendante au Centre des médias en Ukraine.
Il reste flou sur ses intentions et sur ses projets. Et moins il dit des choses concrètes sur son activité en tant qu'homme politique après l'élection, plus de gens le soutiennent, puisqu'il laisse le grand vide où chacun peut projeter son rêve, sa volonté pour combler le manque. C'est-à-dire que moins il parle, plus les gens ont confiance, puisque chacun, en se projetant dans le programme un peu vide de Zelensky, il s'imagine son propre programme, il s'imagine en quelque sorte son propre Zelensky, son propre président, à son goût. C'est une forme de populisme, puisque Zelensky laisse entendre à chacun ce que les gens veulent entendre.
Cette stratégie de l'évitement, surtout lorsqu'il est question de présenter des solutions pour lutter efficacement contre la corruption qu'il dénonce, Volodymyr Zelensky devrait l'abandonner avant le vote de dimanche soir. En effet, le comédien candidat et Petro Poroshenko, toujours distancé dans les sondages, viennent de signer un accord pour débattre après-demain en face à face et pour la première fois.
Claude Bruyot, reportage à Odessa. Et tout de suite, un classique du rhythm and blues nord-américain.
Tonight, so glad to be in your wonderful city, and I have a little message for you, and I want to tell every woman and every man tonight that's ever needed someone to love, that's ever had somebody to love, that's ever had somebody to understand, that's ever had someone that needs your love all the time, someone that's with them when they're up, somebody that's with them when they're down. Somebody like this, you better hold on to them. 'Cause let me tell you something. Sometimes you get what you want, and you lose what you have. And there's a song I sing, and I believe if everybody was to sing this song, you'd save the whole world. Listen to me.
Salomon Burke, Everybody Needs Somebody to Love. Tout le monde a chanté ce morceau. Wilson Pickett, les Blues Brothers et bien sûr les Rolling Stones. 3, 2, 1...
France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelez ensemble votre jury.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Oui, le mercredi, le cinéma en VO avec le nouveau maître du thriller espagnol, Rodrigo Sorogoyen. Son quatrième film, El Reino, sort aujourd'hui sur les écrans après avoir remporté le prix de la critique au festival du film policier de Beaune au début de ce mois. C'est un film France Inter, une plongée dans l'univers corrompu de la politique espagnole. Alors on va écouter la bande-annonce et après on va en parler avec Corinne Pellissier.
Qui est-ce, usted? Qui est Manuel López Vidal?
Ciudadano normal.
¿De verdad se considera un ciudadano normal?
¿Qué ha pasado?
Hay unas grabaciones.
El registro ha comenzado a primera hora de la mañana.
A partir de ahora quiero que me lo cuentes todo.
¿Te dije que no te quedaras con pruebas o no te lo dije?
¿Con quién has hablado de lo nuestro? ¡Problema es tu puta incontinencia verbal, joder!
Tranquilo, ¿no?
¿Por qué entraste en política?
Vaya panda de gánsters.
¿Tú eres consciente de que puede caer todo el mundo?
Soy consciente de millones de cosas que eres incapaz de imaginar.
El Reino, Corinne Pellissier, un film inspiré de plusieurs grandes affaires de blanchiment d'argent et de fraude fiscale qui ont défrayé la chronique en Espagne ces dernières années et qui nous rappelle que toute ressemblance avec des personnages ayant existé ne serait pas totalement fortuite.
Mais voilà, on a peu vu jusqu'à présent de films comme celui-ci sur le thème de la corruption, car vous l'aurez compris, il s'agit du film d'un homme en colère, un citoyen qui n'en peut plus. Des scandales à répétition, l'affaire Barcenas, l'affaire Gürtel pour les plus connus, des histoires de financement occulte, de fraude, de détournement qui ont affecté pendant des années le Parti Populaire, mais pas seulement, et marqué aussi la mémoire des Espagnols. La corruption est aujourd'hui le deuxième sujet de préoccupation, juste derrière le chômage. Un sujet on ne peut plus ancrer dans le réel, mais pour une histoire qui relève bien, elle, de la fiction, le parcours d'un politicien véreux sur le point de tomber, mais pas tout seul. L'affaire rappellera à certains bien des souvenirs, et pourtant, Rodrigo Sorogoyen a choisi ici de ne pas nous donner d'indications, en dehors de l'époque. Nous sommes en 2008, et le récit a une valeur très universelle.
Desde un comienzo tomamos esa, desde muy pronto tomamos esa decisión.
Dès le début, on a choisi de ne pas nommer le parti politique et de ne pas donner comme ça d'éléments concrets qui permettaient de trouver lequel c'était. Parce que sinon, le film serait devenu un film politique, un film idéologique, parce que sinon, les gens n'auraient plus vu que ça. Ça nous aurait éloigné de la voie qu'on s'était fixée, de faire un film sur la corruption d'un système, la corruption de l'être humain en général.
La politique et la corruption. Temas tangibles, es una malversación de fondos, es decir, una...
C'est d'abord les malversations, c'est un vol de l'argent public, du bien public, mais plus grave encore, en fait, c'est l'institution, l'organisation, en fait, d'une mafia, qu'il est extrêmement difficile d'arriver à changer de manière démocratique. Après, il y a des politiciens qui sont animés d'une véritable passion, qui ont vraiment envie de cette mission de service public, mais malheureusement, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié cet aspect-là de la politique.
Voilà, Corinne Pellissier, au-delà de la corruption, ce qu'a voulu montrer le réalisateur, c'est le chemin. Comment cet homme-là va continuer à se regarder dans la glace en dépit de ce qu'il a fait.
Et c'est tout le génie du film, une histoire racontée du point de vue du salaud, de celui qui n'assume pas ses méfaits, qui veut faire accuser les autres, qui est prêt à tout pour échapper à la prison. Il est sur tous les plans, ne le quitte jamais, on finit même par se surprendre à ressentir quasiment de l'empathie pour lui. C'est une histoire écrite vraiment pour nous faire réfléchir et pour nous bousculer. Le rythme est frénétique, haletant, les comédiens remarquables, à commencer par Antonio de la Torre, dans le rôle de ce Manuel López Vidal dont on suit l'histoire comme un thriller. Rodrigo Sorogoyen, qui était encore il y a 2 ans un inconnu aux yeux du grand public, a remporté pour ce film une pluie de récompenses absolument méritée.
El Reino, ce film de Rodrigo Sorogoyen, un film à voir cette semaine, un film France Inter.
France Inter. Un jour dans le monde.
C'est l'heure du monde à l'envers avec Jean-Marc Four. La très vaste Indonésie, Jean-Marc se rendait aux urnes aujourd'hui. Les premiers résultats laissent penser que le président sortant, Joko Widodo, sera reconduit. Et à tous ceux qui pensent que l'islam est incompatible avec la démocratie, eh bien l'Indonésie vient de démontrer le contraire. C'est votre monde à l'envers, Jean-Marc.
Et cet exemple indonésien est de taille, de grande taille. De quoi parlons-nous? D'un pays qui est à la fois le plus grand pays musulman au monde, 260 millions d'habitants, et au aussi la troisième démocratie de la planète par la taille après l'Inde et les États-Unis. C'est même une démocratie impressionnante. Aujourd'hui, 192 millions d'Indonésiens étaient appelés aux urnes dans les 17 000 îles de cet archipel. C'était à la fois un scrutin présidentiel, législatif, régional, local. Les chiffres sont saisissants. 800 000 bureaux de vote, 245 000 candidats, 16 partis politiques, 30% de femmes parmi les candidats. Tout s'est bien passé, dans le calme, et comme toujours désormais en démocratie, les électeurs ont même eu droit, pendant la campagne, à leur déluge de fake news. Qui plus est, le candidat le plus modéré semble donc l'avoir emporté, vous le disiez, même si le résultat officiel ne tombera que dans un mois. Jokowi Dodo, tout le monde l'appelle donc Jokowi en Indonésie, 57 ans, souvent les baskets aux pieds, fan de hard rock. On le présente souvent comme un Obama indonésien. Pendant son premier mandat, il a augmenté le salaire minimum, étendu l'assurance maladie, développé les bourses d'études, fait construire des routes et des aéroports, le tout avec une croissance économique de 5%. Le plus grand pays musulman au monde est donc bien une démocratie.
Et Jean-Marc, on retrouve ce débat, l'islam et la démocratie sont compatibles.
C'est un débat passionnant qui divise les philosophes, les historiens, les théologiens. Et le souci, soit dit en passant, c'est que ce débat est souvent instrumentalisé politiquement, en particulier à l'extrême droite. Dans ce débat, les uns disent qu'il y a une incompatibilité de principe entre islam et démocratie parce que la religion musulmane instituerait une primauté du religieux sur le politique. Et la situation de nombreux pays leur donne raison. L'échec des printemps arabes, l'autoritarisme ultra-conservateur des monarchies du Golfe. Mais les autres observent que la liberté individuelle est essentielle dans la religion musulmane et qu'elle est aussi centrale dans la démocratie occidentale. Les deux seraient donc compatibles. Et quelques exemples récents démontrent, au-delà du cas de l'Indonésie, que l'aspiration aux libertés publiques propres à la démocratie est bien présente en terre d'islam. Je pense d'abord au Soudan, où la mobilisation populaire se poursuit, on le sait. Elle a déjà fait chuter le tyran Omar el-Béchir. Elle s'oppose à l'utilisation de la religion comme justification d'un régime dictatorial. Dans un autre registre, on peut regarder l'Algérie, qui a connu l'horreur du terrorisme islamiste. Aujourd'hui, l'islam est peut-être plus présent que jamais dans la société algérienne, mais cela n'empêche pas l'aspiration démocratique.
Et il y a quand même, Jean-Marc, quand même toujours un essor du fondamentalisme musulman.
Oui, c'est vrai, et c'est pour ça que la situation peut aussi évoluer. Revenons à l'Indonésie. La démocratie fonctionne, on l'a dit, mais l'intolérance a marqué des points pendant la campagne, avec une poussée du wahhabisme et du salafisme venus d'Arabie Saoudite. En face, l'islam de tolérance, que l'on appelle Nusantara, propre à l'archipel indonésien, est apparu en recul. Le candidat de l'opposition, qui est un héritier de l'ancienne dictature, s'est tourné vers des groupes islamistes radicaux. Et même Jokowi, le président modéré au pouvoir, a dérivé vers un discours religieux. Il a notamment recruté comme colistier un prédicateur islamiste conservateur, Maruf Amin. Et il s'est rendu en pèlerinage à la Mecque pour mieux rallier à sa candidature les puissantes écoles coraniques indonésiennes. Pendant la campagne, les discriminations se sont accrues contre les minorités religieuses du pays, les chrétiens, les hindouistes. Bref, la religiosité s'accroît en Indonésie, elle menace les libertés. En fait, quand le politique se met à miser sur la religion, à instrumentaliser la religion, quelle qu'elle soit, c'est généralement le début des ennuis pour la démocratie.
Jean-Marc Four, Le Monde à l'envers.